Merci, parce que tu es là pour nous faire du bien. Tu es toujours au milieu des tiens pour faire du bien, Seigneur. Ta parole nous dit que tu allais de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec toi. Et tu es là, Seigneur, pour nous faire du bien maintenant et pendant toute cette convention que nous te remettons afin que tu la bénisses du début à la fin, afin que tous ceux qui entreront dans ce lieu puissent te voir, puissent voir ta gloire, ta majesté, ta grandeur, ton salut. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Tu nous as fait du bien par les louanges et l'adoration que tu as mis dans nos cœurs. Nous avons pu réjouir ton cœur, car tu nous as créés pour t'adorer et pour te louer et pour te bénir. Nous sommes heureux lorsque nous faisons cela. Tu veux bénir maintenant la prédication de ta parole, car tu nous as laissé ta parole pour nous montrer le chemin à suivre et pour nous montrer ce que nous devons faire pour recevoir ta bénédiction. Ouvre notre esprit, Seigneur, comme tu as ouvert l'esprit de tes disciples autrefois, pour qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons comprendre ta parole. Notre intelligence est incapable de concevoir des vérités spirituelles. Ouvre notre esprit, Seigneur, et crée en nous des cœurs dociles à ta voix. Et merci pour ce que tu vas encore faire maintenant. Oh, nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Nous t'aimons, Seigneur, et je t'aime de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force et de toute ma pensée. Gloire et louange te soient rendues. Merci pour ta présence et merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Et que toujours toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mes amis. Jésus-Christ est vivant.
Amen.
Alléluia. Nous ne prêchons pas un Christ mort, mais nous prêchons un Christ ressuscité. Il est mort sur la croix, c'est vrai, mais il n'est pas resté sur la croix. Après avoir accompli son œuvre, son Père, pour attester que l'œuvre de la croix a été parfaitement accepté par le Père pour le pardon de nos péchés, pour la guérison de nos maladies et pour la délivrance de la main de Satan, son Père, le troisième jour, l'a ressuscité des morts. Alléluia! Comme pour dire au monde tout entier, vous avez crucifié mon Fils, vous ne vouliez point de lui. Mais sachez, mes amis, que le monde sache que c'est lui que j'ai oint du Saint-Esprit. c'est lui que j'ai établi dans ce monde pour juger les vivants et les morts. Lui seul en est digne. Lui seul a payé notre dette. Lui seul nous a aimés. Lui seul en est digne, car il a donné sa vie pour nous. Amen.
Amen.
Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité des morts. C'est là le message que ce monde a besoin d'entendre plus que jamais, n'est-ce pas vrai? Il n'y a pas d'autre espoir dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie ici et dans la vie de ce monde en dehors de la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'espoir. Confiance en celui qui a vaincu la mort. Dites-moi, celui qui a vaincu la mort, il peut vaincre n'importe quoi et n'importe qui. Amen. Il y en a beaucoup qui sont grands dans ce monde. Ils ont peut-être fait de grandes choses dans ce monde. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas vaincue, c'est la mort. Ils sont encore dans le tombeau. Il n'y en a qu'un qui a vaincu la mort et l'enfer. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et lorsqu'il est ressuscité des morts, il s'est présenté à ses disciples et il leur a dit: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront en moi seront sauvés. Chers amis, Jésus est là cet après-midi et il a un message pour chacun d'entre nous. Et pendant ce week-end que nous passerons ensemble, le ressuscité va se manifester au milieu de nous. Alléluia! Comme il l'a fait avec ses disciples. J'aime beaucoup dire et redire cela, que le Christ ressuscité, c'est un Christ compatissant. Il est ressuscité, mais il n'est pas monté tout de suite au ciel. Il aurait pu tout de suite partir au ciel et laisser ses disciples comme cela, mais il ne les a pas laissés comme cela. Pendant 40 jours, il est allé les trouver parce qu'il ne pouvait pas partir au ciel avec des disciples qui avaient encore des problèmes, des doutes. Certains avaient le cœur brisé comme Marie de Magdala. Comme Thomas, il était dans le doute et l'incrédulité. Comme Pierre qui avait renié son maître et qui se morfondait, qui commençait à faire une dépression en disant « c'est pas possible, moi l'apôtre Pierre, moi l'apôtre, j'ai pu renier mon maître ». Il ne pouvait plus sortir de cette situation. Mais le Christ ressuscité le savait. Les deux disciples d'Emmaüs aussi, qui retournaient dans leur village, tout découragés, tristes, ils étaient tristes, la Bible nous dit. Et ils discutaient entre eux, en disant, c'est dommage, ce Christ que nous avons suivi jusqu'aujourd'hui, il a fait des choses extraordinaires, mais on l'a crucifié. On l'a crucifié, on ne sait pas où il est maintenant. Ils avaient mis toute leur espérance en lui. Mais voilà qu'on l'a crucifié. Et ils ne savaient pas qu'il était vivant. Et ils repartaient tout tristes, tout découragés. Il y en a beaucoup encore au milieu de nous qui sont comme cela. Tristes, découragés. Ne sachant pas que notre Sauveur, que leur Sauveur est ressuscité et qu'il est près d'eux. Amen. Christ dans sa résurrection nous révèle qu'il est près de nous. Amen. C'est pourquoi il est près de toi. Tu ne comprends peut-être pas, mais il est là. Il est là. Et il veut te parler. Il veut t'aider. Il est près de toi. Les choses ne se sont pas passées comme tu le pensais. Mais Dieu a un plan. C'est son plan qui s'est réalisé. Tes plans peut-être ont été bousculés. Et Dieu le fait ainsi parfois. Dieu bouscule nos plans. Dieu bouscule nos projets. Parce qu'il voit que nous sommes sur une mauvaise voie. Il voit que cette voie est une voie qui nous conduit dans une impasse. Et dans son amour, il vient se révéler à nous. Il vient un peu bousculer nos programmes, nos pensées, nos conceptions, nos traditions. Et il vient nous dire, mon enfant, mais je suis vivant. Je veux me révéler à toi. Alléluia. Et lorsque Jésus s'est révélé à ses disciples d'Emmaüs, il ne s'est pas révélé à eux sur la route, n'est-ce pas? Ils ont dû rentrer chez eux. Et Jésus est rentré avec eux à la maison. Et c'est là, dans l'intimité, au moment où il rompait le pain, que Jésus s'est révélé à eux. Voyez-vous, Jésus veut se révéler à toi, à vous, dans l'intimité de ton cœur. Il veut que tu le reçoives. Il veut que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Car si tu n'ouvres pas la porte de ton cœur, il restera dehors. Il ne force la porte de personne, le Seigneur. Amen. Il ne force personne. Mais il veut entrer dans ta vie. Dans ta vie, pas seulement dans ta tête. Beaucoup ont crise dans leur tête. On parle de la résurrection et ils disent, mais je sais ces choses. Ah, mais je sais, j'ai connu ces choses, j'ai appris cela à l'école du dimanche, au catéchisme, mais je sais cela. Mais cependant, ils sont tout tristes. Ils vivent comme si le Seigneur était resté cloué sur la croix. Il n'y a pas de différence dans leur vie. Ils ne peuvent pas dire que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est réellement ressuscité. Alléluia! Et Dieu veut se révéler à toi. Et lorsqu'il s'est révélé à ses disciples d'Emmaüs, ils sont repartis à Jérusalem. Ils sont allés voir leurs frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Seigneur est... Et quoi? Est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et il y a eu comme un feu nouveau qui s'est allumé en eux à cause de la présence du ressuscité. C'est ce que Dieu veut faire pendant ce week-end. Il veut réchauffer ton cœur par sa présence. Il veut transformer ta vie. Jésus ne veut pas seulement entrer dans un coin de ta maison ou dans un coin de ta tête. Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Il ne veut pas qu'il soit, il ne veut pas seulement être le maître dans ta vie seulement le dimanche matin à l'église, mais il veut être le Seigneur de ta vie tous les jours, 24 heures sur 24. Amen. Il est le Seigneur, mes amis. Et tant que nous ne l'acceptons pas dans notre vie comme le Seigneur, alors rien ne peut être transformé dans notre vie. Mais ce soir, un miracle est possible si tu acceptes tout simplement Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est ressuscité, mais nous ne devons jamais oublier l'œuvre qu'il a accomplie sur cette croix. Et j'aimerais parler quelques instants maintenant sur le prix que Jésus a dû payer pour nous racheter, nous sauver, nous délivrer de nos péchés et de la main du diable et de l'enfer éternel. Mes amis, la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Et lorsque nous parlons de la résurrection, nous ne devons jamais oublier le prix qu'il a dû payer pour nous sauver. Écoutez-moi, ceci est vital. Car si nous ne comprenons pas ce message-là, alors toute la vie de Jésus n'a pas de sens. C'est lorsqu'on comprend la signification de la mort de Jésus-Christ que l'on comprend qui est Jésus-Christ et pourquoi il est venu sur cette terre. Alléluia! Et j'aimerais vous dire à quel prix Jésus nous a délivrés. La Bible dit, et je lis maintenant quelques versets dans l'épître de Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit cela encore. Parce que Jésus, l'apôtre Pierre a vu le Christ mourir sur la croix, n'est-ce pas vrai? Il a vu la gloire de Jésus, mais il a vu aussi les souffrances de Jésus. Il a été témoin des souffrances de Jésus. Et sur le moment, l'apôtre Pierre n'a pas tout compris. La preuve, c'est qu'il était encore là avec ses problèmes. Mais le Saint-Esprit l'a éclairé sur la signification de la mort de Jésus-Christ. Et là, il nous explique en peu de mots cela dans sa première épître, première épître de Pierre au chapitre 1. Et à partir du verset 17, voici ce que l'apôtre Pierre dit. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que nous avons été rachetés de la vaine manière que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Écoutez-moi bien, mes amis, pour que l'apôtre Pierre s'exprime ainsi, il a fallu qu'il ait une révélation de la part de Dieu. Car lorsque Jésus, à un moment donné, vous vous en souvenez, lorsque Jésus a dit à ses disciples et à ses apôtres qu'il allait bientôt aller à Jérusalem et qu'on allait le crucifier, qu'il allait être rejeté par les sacrificateurs, qu'on allait le flageller, qu'on allait l'humilier, mais que le troisième jour, il ressusciterait des morts, alors qu'il parlait de sa mort et de ses souffrances, l'apôtre Pierre s'est écrié, « Comment, Seigneur? Mais c'est pas possible! Tu parles de mort? Mais où tu vas aller? Mais pourquoi tu vas mourir? Mais ce n'est pas possible! Nous t'avons suivi, toi! Tu as fait des miracles extraordinaires! Jamais homme n'a parlé comme toi! Tu as ressuscité des morts! Tu as donné à manger à des multitudes! Tu as ouvert les yeux des aveugles! Tu as ouvert les oreilles des sourds! Tu as fait marcher les paralytiques. Tu as donné un enseignement que nul homme n'a apporté. Mais ce n'est pas possible. Tu ne mourras pas. Et le Seigneur lui a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont que des pensées humaines. Voyez-vous, là, le Seigneur a été sévère avec l'apôtre Pierre. Ce n'était pas que l'apôtre Pierre était possédé du diable, pas du tout. Mais c'est qu'à ce moment précis, l'apôtre Pierre a écouté le diable.
Il a été inspiré par le diable pour résister au Seigneur Jésus et pour l'empêcher d'aller mourir sur la croix pour le pardon des péchés de l'humanité. Et Jésus a vu cela, n'est-ce pas vrai? Il a vu la ruse qui était là derrière. Et il lui a dit, Pierre, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Pierre, as-tu compris cela? Je ne suis pas venu ici-bas apporter une nouvelle religion, une nouvelle philosophie. Il y avait d'ailleurs assez de religions à cette époque-là. Il y avait des centaines de religions lorsque Jésus est venu sur cette terre. La religion n'a jamais sauvé personne, mes amis, n'est-ce pas vrai? Mais Pierre ne comprenait pas, comme peut-être certains encore ne comprennent pas. Comment? Il faut que tu meures. C'était au-delà de sa compréhension. Et même encore aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question. Et même des gens religieux, des gens qui vont à l'église tous les dimanches et qui posent cette question dans le fond de leur cœur. Mais est-ce que vraiment Jésus devait mourir sur la croix pour pardonner nos péchés? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour pardonner les hommes de leurs péchés? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Et dans le fond de notre cœur, nous ne saisissons pas pourquoi Jésus est mort et surtout pourquoi il versa son sang. Vous savez, il y a certaines versions bibliques, certaines versions de la Bible, en anglais tout spécialement, qui commencent à enlever la mention du sang dans les Écritures. Ils commencent à enlever la mention même du sang. Ils ne peuvent supporter que Jésus devait verser son sang pour le pardon de nos péchés. Il dit, ce n'est pas possible. Ça, c'est une théologie que nous ne pouvons admettre. C'est une théologie difficile. Pourquoi est-ce que Jésus devait mourir et verser son sang? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour que nous soyons sauvés de nos péchés? Mes amis, il n'y a pas d'autre moyen que cela. La Bible dit que nous avons la rédemption par le sang de Jésus. Amen. Il n'y a pas de rachat en dehors du sang versé sur le bois de la croix. Écoutez-moi bien, ceci est très important. Très, très important. Pourquoi Jésus a-t-il versé son sang? Je vais vous donner trois raisons tout de suite. La première raison, c'est que la Bible dit... Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. La deuxième raison, pourquoi Jésus a-t-il versé son sang? Parce que le péché aux yeux de Dieu est quelque chose de très très grave. Nous ne comprenons pas pourquoi Jésus est mort, parce que nous ne comprenons pas la gravité du péché, les conséquences du péché. Un jour, un responsable dans une église, à la fin du sermon de son pasteur, il est allé le trouver en lui disant, « Écoutez, monsieur le pasteur, c'est bien, vous prêchez bien, mais on vous demande une chose, là, un peu tout le monde dans l'église, vous parlez un peu trop sur le péché. Nous sommes maintenant un peu dans une société évoluée. Alors, n'employez pas des termes un peu trop durs, le péché. Mais n'allez pas trop fort. Et si vous parlez comme cela, vous allez complexer nos jeunes. Vous allez les culpabiliser. S'il vous plaît, ne parlez pas comme ça. Dites plutôt que le péché, c'est une maladie. Dites plutôt que le péché, c'est une faiblesse. Dites plutôt que le péché, c'est un défaut. Dites plutôt que le péché, c'est un complexe. Si vous dites ça, ça passe. Mais si vous dites que le péché, c'est le péché, Alors là, vous n'allez pas avoir beaucoup d'auditeurs. Après avoir écouté son homme, le pasteur est allé prendre une bouteille qui se trouvait sur l'étagère. Et c'est une bouteille où il y avait une étiquette dessus avec la mention « poison ». Alors il lui a dit « Donc, à vous entendre, voilà ce qu'on devrait faire ». Il est allé prendre la bouteille avec l'étiquette « poison » dessus. Il a dit « Voilà, alors, à partir de maintenant, nous allons mettre une autre étiquette sur cette bouteille et nous allons mettre « sirop ». Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Il a dit « Mais c'est très dangereux ce que vous faites ! Très dangereux !» Et c'est ce que vous devez comprendre, mon ami, lui a-t-il dit. C'est que le péché est péché aux yeux de Dieu. Même si vous considérez votre péché comme du sirop, vous allez siroter. Vous sirotez depuis longtemps. Mais laissez-moi vous dire que ce sirop-là est distillé par le venin même du diable. Et ce qui est péché aux yeux de Dieu est péché aux yeux de Dieu. Même si toi, tu ne le considères pas péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché détruit et la mort, selon la parole de Dieu, c'est la séparation d'avec lui. Voilà ce que produit le péché. Le péché est grave. Le péché nous sépare de Dieu. Ton péché te sépare de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est mort sur cette croix. Jamais nous ne saisirons d'où Jésus nous a sortis si nous ne comprenons pas cette gravité du péché. Mes amis, si vous voulez expérimenter la puissance du pardon qu'il y a dans le sang de Jésus, dans la mort de Jésus, vous devez réaliser la haine que Dieu a à l'égard du péché. Quand vous mentez, vous dites « Oh, c'est un petit mensonge, ça. » Il y en a qui disent des plus gros mensonges. Vous dites « Oh, j'ai volé quelque chose. » C'est pas grand-chose que j'ai volé. Moi, j'ai volé un œuf. Il y en a qui veulent un bœuf. Moi, je veux un œuf. C'est pas grand-chose. Mais qui veut un œuf, veut un bœuf aussi. Et on est là en train de nous justifier. Et la parole de Dieu dit, Christ est mort pour nos péchés. C'est l'apôtre encore qui le dit, Pierre. Christ est mort pour nos péchés. Lui, le juste pour nos injustes. Et l'apôtre Pierre dit, Christ a souffert pour nos péchés. Voyez où il va encore plus loin. Le péché a fait souffrir Jésus. Le péché, c'est la rébellion à l'égard de Dieu. Vous savez, on peut être religieux et être rebelle à l'égard de Dieu. On peut être religieux, on peut faire sa prière, on peut faire beaucoup de choses, mais être rebelle dans le fond de son cœur, n'est-ce pas vrai? Le péché, c'est cela. Le péché, c'est pas seulement mentir, tuer ou voler. Il y en a beaucoup qui disent, « Oh, mais moi, monsieur, pour qui est-ce que vous me prenez? On n'est pas en Afrique, ici! Nous, on n'est pas des cannibales! Voyons, on est des gens disciplinés, ici! On sait ce qu'on fait, quand même, il ne faut pas exagérer! Et on pense que le péché, c'est tuer, voler, commettre adultère, le péché c'est cela bien sûr. Mais la racine du péché, le péché c'est la transgression de la loi. Et la loi exprime le caractère de Dieu. Amen. La loi exprime le caractère de Dieu. Lorsque tu transgresses la parole de Dieu, tu brises le cœur de Dieu. Tu brises le cœur de ton Dieu. Péché c'est briser le cœur de Dieu. Christ a souffert pour nos péchés, lui le juste, pour nous injustes, afin de nous amener à Dieu. Oh, que nous puissions réaliser cela. Amen. La gravité du péché. Car le péché nous détruit, le péché est une rébellion, et le péché nous sépare de Dieu. Dieu est saint, et il ne peut pas avoir communion avec un être pécheur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu est saint. Et c'est pourquoi il faut régler le problème du péché dans notre vie. Mais lorsque le problème est réglé, et en Jésus-Christ il a été réglé, quelle libération! Alléluia! Quelle libération! La troisième raison pourquoi Jésus a versé son sang, c'est parce que nul homme ne peut se sauver lui-même. Amen. Là aussi, c'est une pensée qui doit bien pénétrer dans notre tête et dans notre cœur. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pourquoi a-t-il versé son sang? Parce que nul homme ne peut se sauver lui-même. Nul homme! Tu ne peux te sauver toi-même. Ni tes prières, ni tes larmes, ni ta religion, ni ton argent, ni tes bonnes œuvres, ni ta compassion pour les pauvres, ni le bien que tu as fait ne peuvent te sauver. Nul homme ne peut se sauver lui-même. Il y en a trop qui espèrent se sauver soi-même en faisant quelques bonnes œuvres. Mais c'est là le plus grand mensonge. Si tu pouvais te sauver toi-même, alors pourquoi Jésus est-il mort? Alors tu détruis la valeur de ses souffrances. Tu détruis la portée de ses souffrances. C'est comme si tu lui disais, « Seigneur, tu es mort, mais ta mort n'est pas suffisante. Il faut que je souffre un peu. Il faut que je paye un peu de moi-même. Il faut encore que je fasse quelque chose pour être pardonné. » Et lorsque nous contemplons la croix de Jésus, nous devons réaliser ces trois choses importantes. Amen. Ces trois choses vitales, mes amis. C'est que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Sans effusion de sang. Ah, vous dites, mais c'est difficile à entendre ça. C'est pas possible. C'est une drôle de théologie. La Bible nous parle constamment de cela. Lorsque vous lisez la Bible, il y a un fil rouge qui traverse la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a un fil rouge, c'est le fil du salut, qui n'est accordé qu'au travers du sang versé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Alors vous dites, mais c'est pas possible. Alors qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Voyez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, avez-vous réfléchi à cela? Est-ce que l'Éternel Dieu leur a dit, « Oh, vous avez péché, bon, ben, c'est des choses qui arrivent. Allez, je vous pardonne, on n'en parle plus. » Vous croyez qu'il leur a pardonné comme cela? Attention. Après avoir péché, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont cousu un petit peu, ils ont pris quelques feuilles de figuier et ils ont commencé à se cacher. Mais Dieu n'était pas satisfait avec leur petit habit de confection personnelle. La parole de Dieu dit que pour que le pardon soit accordé à Adam et Ève, il est dit que Dieu leur fit des habits de peau et les en revêtit. Un habit de peau, comment est-ce qu'on peut l'avoir, l'obtenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut verser le sang d'un animal, d'un agneau. Donc, dès le début, dès la première chute de l'homme, dès le premier péché de l'homme, nous voyons là cette vérité qui traverse toutes les Écritures. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Et quand l'Éternel Dieu les en revêtit, c'est comme s'il leur disait, Adam et Ève, vous êtes pardonnés maintenant, votre péché méritait la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous méritiez la mort. Mais je vous aime aussi. Dans ma sainteté, je vous dis, dans ma justice, je vous dis que vous méritez la mort. Mais dans mon amour, je cherche à vous sauver. Je ne veux pas que vous soyez perdus. Et le seul moyen de vous pardonner, c'était d'offrir un sacrifice. Il fallait que le sang soit versé. Le sang soit versé. Et Adam et Ève ont compris cela. Ils ont dit, Dieu, l'Éternel, nous a pardonné, mais à une seule condition. C'est qu'un agneau Et c'était pas n'importe quel agneau qui devait être sacrifié. La Bible dit dans l'Ancien Testament que les agneaux, les bêtes qui devaient être sacrifiées, c'était des agneaux, des animaux sans défaut et sans tache. Il fallait pas que ce soit une bête avec un œil crevé ou avec une patte en moins. Il fallait que ce soit un animal parfait, le plus parfait possible. Car ce sacrifice préfigurait et annonçait l'agneau de Dieu qui allait venir des siècles après. L'agneau sans défaut et sans tache, qui est Jésus et qui est seul capable d'ôter et de purifier les péchés des hommes. Alléluia! Et Adam et Ève le savaient cela. Écoutez-moi bien, je vais à l'origine de la race humaine, car c'est là que les choses ont commencé. Et si nous comprenons comment les choses ont commencé, alors nous allons comprendre comment Dieu agit. Adam et Ève le savaient. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être pardonnés autrement. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ils ont enseigné cela à leurs enfants, vous le croyez ? Certainement, vous pensez bien, ils ont dû enseigner cela à leurs enfants. Et qui étaient leurs enfants? Qui étaient leurs enfants, leurs deux premiers enfants? Caïn et Abel. Vous vous souvenez de cette histoire de Caïn et Abel, n'est-ce pas? Mais il y a une leçon là que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas l'attitude de Dieu à l'égard de Caïn. Ils ne comprennent pas. Ils disent même que Dieu est injuste. Si nous ne comprenons pas pourquoi Dieu agit comme cela avec Caïn, alors c'est parce que nous n'avons pas saisi ce qui est important aux yeux de Dieu, à savoir que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Adam et Ève ont enseigné leurs enfants en leur disant, lorsque vous offrirez un sacrifice à l'Éternel, mes enfants, Caïn, écoute bien, Abel, écoute bien, il faut offrir un agneau sans défaut et sans tache. Vous devez le sacrifier sur l'autel. Le sang doit couler. Dans la Bible, pour le pardon de nos péchés, c'est vie pour vie. Si tu veux sauver ta vie, une autre vie doit être sacrifiée. C'est là un principe divin, une loi spirituelle. Pour que quelqu'un ait la vie sauvée à cause de son péché, il faut qu'une vie soit livrée. Dieu ne pouvait pas dire, oh, vous avez péché, bon, ben, ça va, on n'en parle plus, venez ici, hein, bon, ben, voilà, vous demandez pardon, ben, c'est terminé, voilà, c'est bien, vous continuez. Dieu ne pardonne pas comme cela. Ce n'est pas cela le vrai pardon de Dieu. Adam, Caïn, Abel, rappelez-vous de cela. Il faut un sacrifice, il faut que le sang coule. Nous le savons pour nous, si le sang ne coule pas, s'il n'y a pas un sacrifice, sans défaut et sans tâche, Dieu ne vous pardonnera pas. Alors, en ayant cette pensée-là, lisons maintenant ce qui est écrit. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Écoutez bien maintenant. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Voyez-vous ? Des fruits de la terre. Et ensuite, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Cela veut dire qu'il a sacrifié un agneau et que le sang a coulé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit ? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous dites, mais comment ça? C'est pas possible. Pourquoi? Il y a du favoritisme en Dieu. Pourquoi? Alors ça, je ne comprends pas. Caïn, il a porté les plus beaux fruits encore. Les plus beaux fruits comme il était laboureur. Il a pris les plus beaux fruits de son verger. Et il a dit, je vais offrir ça à l'Éternel Dieu. Et Dieu n'a pas accepté son sacrifice. Et Abel, il a offert un agneau, car il s'est rappelé ce que ses parents lui avaient enseigné, une loi spirituelle. Lorsque tu commets un péché, Abel, rappelle-toi, Tu dois te présenter devant Dieu, non pas avec un beau plateau de fruits qui représente tes œuvres personnelles, mais avec un sacrifice sanglant. Quand tu te présentes devant Dieu lorsque tu as péché, tu dois te présenter avec un sacrifice sanglant. Une autre vie doit être livrée à ta place, si tu veux que je te pardonne. Voyez-vous, Caïn savait cela. Et pourquoi Dieu n'a-t-il pas regardé favorablement son offrande? Parce que Caïn a été rebelle. Il savait ce que Dieu voulait, mais il n'a pas voulu obéir. Vous comprenez pourquoi maintenant l'Éternel n'a pas porté un regard favorable sur lui?
La première partie est terminée. Veuillez retourner la cassette.
Il savait ce que Dieu voulait, mais il n'a pas voulu obéir. Vous comprenez pourquoi maintenant l'Éternel n'a pas porté un regard favorable sur lui? Caïn le savait. Il s'est dit, oh, qu'est-ce que cette histoire encore? Oui, dès le début, ça a commencé. Il a dit, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Oh Dieu, éternel Dieu, lorsque j'ai péché, je peux t'amener des fruits, les plus beaux fruits. Ça représente le fruit de mon travail, de ma bonté, de mes bonnes œuvres, de ma gentillesse. Tout cela, voilà, quand je t'apporte des fruits, une corbeille de fruits pour le pardon de mes péchés, alors tout cela représente le bon qu'il y a en moi. Mais en réalité, il y avait dans le cœur de Caïn un esprit de rébellion. C'est comme s'il disait, moi, cette histoire de verser du sang, qu'un sacrifice, un agneau doit mourir, lorsque moi j'ai péché, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'accepte pas cela. C'est sanguinaire cela. Je n'accepte pas cela. Et il s'est dit, éternel Dieu, moi je t'apporte des fruits quoi. Je t'apporte ça et tu dois être content. Est-ce que Dieu a été satisfait? Voyez-vous, Caïn a considéré à la légère ce que Dieu attendait de lui. Mais Dieu a été très sévère dans ce domaine-là, parce qu'il savait qu'il n'y a pas d'autre moyen pour être pardonné que d'offrir en sacrifice un agneau sans défaut et sans tache. Et Abel a compris cela. Il a entendu cela de ses parents. Quand tu as péché, offre un sacrifice sanglant et Dieu te pardonnera. Et lorsqu'il avait péché, il faisait cela. Et c'est pourquoi Dieu a regardé favorablement l'offrande d'Abel. Amen. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Pourquoi? Est-ce que Abel était meilleur que Caïn? Est-ce que le problème était là? Pas du tout. Pas du tout. Caïn était comme Abel, Abel était comme Caïn. Ils étaient tous les deux pécheurs. Mais là où il y a une différence entre les deux, c'est que tous les deux cherchaient un moyen pour être sauvés qui était différent. L'un cherchait le moyen pour être sauvé par ses propres œuvres, on dirait aujourd'hui par sa religion, par ses prières, par la gentillesse qui est en lui. Voyez-vous, combien de gens, par les souffrances aussi qu'on peut avoir dans sa vie. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire au sujet d'une dame, « Oh, vous savez, si cette dame-là n'est pas sauvée, alors personne ne sera sauvé. Si vous saviez combien elle a souffert, cette dame. Oh, si vous saviez combien elle a souffert. Si elle n'est pas sauvée, personne ne sera sauvé. » Alors j'ai dû tout de suite intervenir, vous pensez bien quand j'ai entendu cela. Quelle erreur! Elle utilisait la méthode de Caïn pour être pardonnée. Et la méthode de Caïn ne sera jamais agréée. Car Caïn comme Abel sont pécheurs. Vous êtes pécheurs, je suis pécheur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia! Cain et Abel sont les mêmes, mais Abel s'est approché de la bonne façon de Dieu. Il avait compris que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon pour les péchés. Et voilà pourquoi il était pardonné. Est-ce que tu comprends cela? Beaucoup seront perdus pour toujours. Écoutez-moi bien, ceci est vital. Car si Dieu est amour, Dieu n'est pas un Dieu sentimental qui se laisse fléchir et courber par les pleurnicheries, par les larmes de l'un ou de l'autre, jamais. Dieu est un Dieu qui nous aime, mais Dieu est un Dieu juste aussi. Et c'est pourquoi il ne peut tolérer le péché. Aucun péché n'entrera au ciel. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui chasse les gens du ciel, c'est les gens eux-mêmes, à cause de leur péché. Quand ils entrent dans la présence, dans la gloire de Dieu, ils disent, c'est pas possible, je ne peux pas rester ici. Leur propre péché les chassera loin du ciel. Dieu ne chasse jamais personne du ciel. Mais c'est ton péché, s'il n'est pas réglé. Tu ne pourras pas tenir au ciel. Tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Le ciel serait un enfer pour toi. Tu ne pourras pas tenir. Dans ce ciel de pureté et de gloire. Dans ce ciel où tout le monde nous montre l'Apocalypse. Où tout le monde est revêtu de robes blanches. Ces robes sont les robes des justes qui ont été lavées par le sang de l'agneau. Alléluia! Et ils chantent, revêtus de robes blanches, avec des harpes à la main. Ils chantent à la gloire de l'agneau de Dieu. À l'agneau qui a été immolé, soit la gloire, la puissance et le règne. Ils chantent à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Mes amis, dans le ciel, il n'y a qu'une personne qu'on loue, c'est l'agneau de Dieu. Toi, tu ne peux pas te trouver dans un coin du ciel et dire « Oh, gloire à moi ». Moi, si je suis ici, c'est parce que j'étais une gentille petite dame. Oh, j'ai commis certains péchés, comme tout le monde, mais je n'étais quand même pas aussi mauvais que vous le pensez. Il faut quand même pas exagérer, j'étais quand même pas aussi mauvais. Il y avait des gens plus mauvais que moi, plus méchants. Moi, quand même, vous ne me connaissez pas, il y avait quand même quelque chose de bon en moi. Et vous êtes là, moi, à cause de moi, je suis au ciel. Vous ne pourrez pas faire cela quand la multitude se tourne vers l'agneau de Dieu et glorifie seulement le sacrifice de Jésus et s'écrie tous, ce n'est pas à cause de nous que nous sommes ici, mais c'est à cause de toi, à cause de toi. Mes amis, il n'y a qu'un passeport pour le ciel, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia! Il n'y a pas d'autre moyen pour entrer au ciel. Il n'y a que le sang de Jésus. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu pardonnait à cause d'un sacrifice sanglant, réellement, le péché de ceux de l'Ancien Testament n'était pas purifié. Vous savez ce qu'il était? Il était seulement couvert. Parce que la Bible nous dit qu'ils étaient constamment là, en train d'offrir des sacrifices. Mais la Bible nous dit que le sacrifice des taureaux et des boucs ne pouvait ôter les péchés. Le péché était couvert. Autrement dit, temporairement, Dieu pardonnait leurs péchés en attendant le sacrifice parfait qui allait venir. Et lorsque Jean-Baptiste, il a vu Jésus s'approcher tout à fait au début de son ministère, alors il a eu une révélation, oui. Il s'est écrié, en regardant les autres, il leur a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau sans défaut et sans tache, qui s'est sacrifié pour nos péchés, lui seul peut te pardonner et te
purifiée totalement, complètement, définitivement, éternellement, extraordinairement, magnifiquement. Alléluia!
Car la mort de Jésus nous délivre de l'enfer éternel. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu nous délivre de l'enfer. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous n'aimons aussi pas beaucoup parler et du péché et de l'enfer aujourd'hui. On dit, oh s'il vous plaît, pasteur, prédicateur, ne parlez pas de ces choses. Je ne vais pas dormir toute la nuit. Ah, vous n'allez pas dormir toute la nuit? Eh bien, je dirai alléluia. Vous allez venir me voir, vous dites, je n'ai pas dormi, après votre message, je n'ai pas dormi. Vous n'avez pas encore assez d'insomnie. Je vais prier pour que vous ne dormiez pas pendant 15 jours. Pendant 15 jours, il est temps de vous réveiller, de vous réveiller de ce sommeil de mort. Il est temps, il est temps. Tu penses que tu es en ordre. En présentant le sacrifice de Caïn, tu penses. Tu as trop compté sur toi. Voilà pourquoi le ciel est fermé. Voilà pourquoi la paix de Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi tu n'as pas la paix avec Dieu. Voilà pourquoi le ciel est fermé, mon ami. Voilà pourquoi le ciel est fermé. C'est ton péché. Ton péché le sépare de lui. Mais viens à lui tel que tu es, au travers du sang de l'agneau. Ton cœur peut être purifié. Amen. Oh, alléluia! Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sous l'Ancien Testament, le péché était couvert, pardonné momentanément. Mais sous la Nouvelle Alliance, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Il n'ôte pas seulement nos péchés, car seulement le péché couvert, le péché seulement couvert, eh bien, nous en sommes encore conscients. Il n'y a que le sang qui purifie nos péchés, mes amis. Il n'y a que le sang. Voilà pourquoi tu es toujours là avec ce sentiment de culpabilité. Ah, mais mon péché. Voyez-vous, alors, comment on réalise qu'on a péché, alors on essaie encore de faire plus d'eux, n'est-ce pas vrai? On essaie encore de souffrir davantage. Oh, ça me revient encore. Ah, mais j'ai cru que c'était parti, cela. Pourtant, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai donné, j'ai fait ceci, cela. J'ai pensé que cela, que comme cela, mon péché allait disparaître. Mais rien du tout. Et alors, vous faites travailler encore plus. Vous faites encore plus de bonnes œuvres. Vous priez encore plus. Vous jeûnez encore plus. Vous donnez encore plus d'argent en espérant que vous allez être purifié. Pas de réponse. Pas de résultat. Voilà pourquoi nous devons réaliser que le sacrifice de Jésus est le seul pour nous délivrer, pour nous sauver, car lui seul a souffert. Amen. Et personne d'autre ne vous sauvera, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez vous sauver vous-même, et personne, aucune autre créature dans ce monde ne vous sauvera. L'apôtre Pierre, encore lui, le jour de la Pentecôte, et après, il s'est écrié à cette multitude de gens religieux, qu'est-ce qu'il leur a dit? Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous soit donné pour être sauvés que le nom de Jésus. Alléluia. Et quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alléluia. 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 Et notre Jésus n'est pas le petit Jésus, c'est le Jésus glorieux. C'est le Jésus souverain. C'est le Jésus majestueux. C'est le Jésus de gloire. C'est le Jésus qui un jour jugera tous les hommes. Accepte-le aujourd'hui comme ton sauveur. Et demain, il ne sera pas ton juge. Mais si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui comme ton sauveur, demain, il sera ton juge. Et ce sera trop tard. C'est aujourd'hui le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Viens à lui, son sang te purifiera. Viens, viens abandonner ton péché. Viens, il t'aime. Viens, réalise que lui seul peut te sauver. Tu ne peux te sauver, viens, viens. Voilà pourquoi Jésus est ressuscité des morts. Parce que son Père a voulu confirmer, attester,
acceptez que sa mort sur la croix seule peut pardonner l'homme de sa culpabilité et de son péché et de l'esclavage du diable. Amen. En croyant dans le sang de Jésus, Dieu lui-même fait la paix avec nous. Il a fait la paix par le sang de sa croix. En croyant dans le sang de Jésus, la Bible dit que nous sommes justifiés par son sang. C'est-à-dire que Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Alléluia! Alléluia! Si tu mets ta confiance dans le sang de l'agneau immolé sans défaut et sans tache, Dieu te considère comme si tu n'avais jamais péché. Tu es pardonné gratuitement, mais tu es pardonné à un grand prix. Le salut est gratuit, mais il n'est pas gratuit pour tout le monde. Et Jésus a donné sa vie pour nous pardonner. Amen. Alléluia. Et le diable lui-même ne peut plus t'accuser. Parce que la Bible dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. As-tu peur du diable? Laisse-moi te dire une chose. Allez, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Alléluia. T'as peur du diable? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur et si tu mets ta confiance dans le sang de Jésus pour le pardon de tes péchés, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Et désormais, c'est lui qui a peur de toi. Alléluia. Alléluia. Le diable a peur de celui qui a mis sa confiance dans le sang de Jésus. Pourquoi le diable ne peut plus t'accuser? Vous savez pourquoi le diable nous accuse? Parce qu'il a des droits. Il a des droits. Pourquoi? À cause de notre péché. Quand il y a un péché qui n'est pas réglé dans notre vie, le diable peut venir nous accuser. Et Dieu ne peut rien faire. Dieu est juste. Tant que vous n'avez pas mis votre confiance dans le sang, Dieu ne peut rien faire. Et le diable vous accuse. Mais lorsque vous avez cru au sacrifice sanglant de Jésus, pour la seule purification de vos péchés, lorsque le diable vient et vous dit, hé là, tu crois que tu es pardonné? On n'est pas pardonné si vite que ça. Il faut que tu jeûnes 40 jours, toi. 40 jours! Et si tu peux jeûner 42 jours, tu jeûneras 42 jours. Parce qu'au bout de 42 jours, si tu mourais, ça m'arrangerait bien. Comme ça, tu ne serais pas sauvé. Tu crois que tu peux être pardonné comme ça facilement? C'est trop facile, ça! Combien de fois on l'entend? Vous ne l'avez pas entendu? Trop facile. Il faut croire. Il faut croire tout simplement pour être sauvé. C'est trop facile. Mais si on disait à la personne, « Ah bon, maintenant viens, tu dois souffrir un petit peu. » Tous les jours, tu dois marcher sur tes genoux ici. Tous les jours, tu dois souffrir. Tous les jours, tu dois faire du bien. Tous les jours, tu dois te morfondre. Alors là, on est tous prêts à le faire. Ah oui, qu'est-ce que je fasse? Ouais, d'accord. Hein. Bon, d'accord. Oh. Oh, vous savez, il y en a qui sont vraiment mordus là-dedans. Pourquoi? Parce que ça glorifie la chair, n'est-ce pas vrai? Comme pour dire, « Oh Dieu, tu vois tout ce que j'ai fait? » Mais le ciel est fermé à toute personne comme cela. Mes amis, lorsque le diable vient, vous lui dites, « Oui, j'ai mis ma confiance dans le sang de Jésus et son sang m'a purifié de tout péché. » Que tu le crois ou non, c'est la vérité. Alléluia! Et le diable est obligé de baisser la tête. Lorsque le sang a purifié votre cœur, le diable n'a plus de droit en vous. N'est-ce pas vrai? Il n'y a plus de péché. Il ne peut plus vous accuser. Votre péché a été ôté. Il ne peut plus. Il n'a plus de droit. Voyez-vous, il n'a plus l'autorité de le faire. C'est pourquoi nous pouvons être tourmentés continuellement par l'ennemi. Et il se moque de nous, car c'est un ennemi. Tant que nous n'avons pas mis notre confiance dans le sang de Jésus, nous tourmente jour et nuit. En disant, fais quelque chose pour être sauvé. Fais quelque chose, va jusqu'au bout du monde. Va, 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 va. Allez, fais. Fais ceci, fais cela. Allez. Puis finalement, tu sais, si tu te jettes par la fenêtre, c'est aussi bien. C'est aussi bien, vas-y. Tu feras un acte héroïque. Et si avec ça, t'es pas encore sauvé, personne ne sera sauvé. C'est un menteur dès le commencement. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour te détruire. Il est venu pour détruire ton péché. Il n'est pas venu pour te détruire toi. Il est venu pour détruire ton péché et te donner la vie éternelle. Si tu mets ta confiance dans le sang de Jésus, tu es parfaitement libre. Et le diable n'a plus de pouvoir. Sa mainmise est ôtée et tu es libre. Tu es libre! Et tu peux lui dire arrière de moi, Satan! Je suis une créature purifiée par le sang de Jésus et Dieu me regarde comme si je n'avais jamais péché. Je suis une nouvelle créature. À qui tu parles là? À qui tu parles quand tu viens vous voir? Tu as péché, mais à qui tu parles? Mais tu as péché, tu as fait ceci là, mais à qui tu parles? Tu es en train de parler là à l'ancienne créature que j'étais. Tu parles, ah bon, ah c'est ça. Ah, je comprends maintenant, je suis un peu difficile à comprendre avec toi, je préfère être difficile à comprendre. Ah, c'est ça que tu voulais dire? Ah, mais tu parles de mon ancienne vie. Tu parles du vieil homme. Tu parles de l'ancienne créature. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Mais cette créature-là a été mise de côté. Alléluia! Maintenant, je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature revêtue de la justice de Jésus. Et Dieu me regarde comme si je n'avais jamais péché. Dieu me regarde comme s'il regardait son Fils. Comme Jésus est sans péché, je suis sans péché. Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur!
Alléluia!
La justice de Jésus nous est acquise par la foi. Amen. Et là, le diable est vaincu. Le diable n'a aucun pouvoir sur la nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Et si tu es une nouvelle créature, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es libre. Ah, vous avez manqué une bonne occasion de dire Alléluia.
Alléluia.
Amen. Le sang de Jésus nous libère réellement. Amen. Des accusations que Dieu avait contre nous, des accusations qui étaient dans notre propre cœur, et des accusations du diable. Il y a une triple libération dans le sang de Jésus. Dieu a fait la paix par le sang de sa croix. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Triple libération par le sang de Jésus. Mes amis, tu peux regarder Dieu en face maintenant. Tu peux vivre une vie épanouie et tu peux regarder le diable en face aussi en lui disant « Désormais, tu n'as plus le droit de me condamner. Un juste a été condamné à ma place. Désormais, justice a été faite. C'est vrai, mon péché méritait la condamnation. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est une très mauvaise nouvelle pour toi. Mais écoute-moi bien. Il y en a un qui est mort à ma place. Le juste est mort à ma place. Justice a été faite, mon péché a été expié, mon péché a été jugé, mon péché a été purifié par le sang de Jésus. Désormais, tu n'as plus le droit de me condamner. Amen. Dieu ne peut pas condamner deux fois le même péché. Écoutez-moi bien. Dieu ne peut pas condamner deux fois le même péché. Si votre péché a été condamné, a été payé par Jésus, le diable ne peut plus vous condamner. S'il vous a pardonné, vous êtes libre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous courber dans la prière quelques instants. Et je crois que le Seigneur appelle plusieurs personnes au milieu de nous. Ceux qui n'ont pas encore mis leur confiance dans le sang de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu es peut-être religieux, tu pries peut-être, mais cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Il n'y a que le sang de Jésus qui sauve. Et quand on croit cela, la paix de Dieu vient en nous. Et nous avons l'assurance que nous sommes sauvés. Nous pouvons dire avec les autres, « Je sais que je suis sauvé. J'ai l'assurance de mon salut. Pourquoi ? Parce que cette assurance ne vient pas de vous, de quelque chose que vous avez fait, mais vient de ce que Jésus a fait. Le salut, c'est croire en l'œuvre parfaite de Jésus. Lui a tout fait. Nous n'avons qu'à croire et à le recevoir dans nos cœurs. Amen. Veux-tu le faire maintenant? Dès le début, nous pouvons commencer cette convention en appelant des hommes et des femmes à mettre leur vie en règle avec Dieu. Si tu es là cet après-midi, ce n'est pas par hasard. Dieu t'aime. C'est un signe de son amour. Dieu t'a aimé jusqu'à verser son sang pour toi. Dieu t'a tant aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu t'a aimé. Il est là. Il veut te laver. Te purifier. Viens, il est vivant. Il est vivant. Il veut te pardonner. Viens, il est vivant, il t'aime. Viens, il est vivant, il veut te délivrer. Viens, viens. Pendant que nous chantons « Oh, viens à Jésus », ceux qui veulent mettre cet après-midi leur confiance dans le sang de Jésus pour être pardonné et pour avoir la vie éternelle. Je vais vous demander de vous approcher ici, pendant que nous chantons et que notre frère Claude chante ce chant. Si Dieu a parlé à ton cœur, viens, nous allons prier pour toi. Viens, le sang de Jésus te purifiera de tout péché. Tu deviendras une nouvelle créature et tu repartiras heureux, transformé pour l'éternité. Amen. Alléluia. Viens maintenant, tel que tu es, sans rien à toi, sinon son sang versé pour toi. Agneau de Dieu, je viens à toi. Viens à lui tel que tu es maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Approchez-vous maintenant. Approchez-vous. Je veux mettre leur vie en règle avec le Seigneur. Approchez-vous. Approche-toi. Jésus est là. Il veut te purifier. Il t'aime. Il est mort pour toi. Ne refuse pas son salut. Ne refuse pas son amour. Les petits comme les grands, il les aime. Il a versé son sang pour toi. Il veut te serrer dans ses bras. Il veut te dire, mon enfant, c'est pour toi que j'ai versé mon sang. Viens, mon enfant, mon sang te purifiera. Viens, approchez-vous. Si le Seigneur a parlé à votre cœur, approchez-vous. Vous ne vous approchez pas d'un homme ou d'une église. C'est à Jésus que vous venez. C'est à Jésus que vous venez. C'est à Jésus. Ayons les yeux fermés et prions tous. S'il y en a d'autres encore, approchez-vous. Le Seigneur est là, il veut te sauver. Il y en a encore d'autres. Ne résiste pas à son appel. Viens à lui, tel que tu es. Mon ami, viens à lui. Alléluia. Viens à lui, mon ami. Alors qu'il en est temps, viens à Jésus. Viens laver ton cœur dans le sang de l'agneau. Viens te laver dans le sang de Jésus.
Te purifier. Viens à lui.
Viens à lui, mon ami. Dieu t'aime.
Viens
à lui. Tel que tu es. Tel que tu es. Il a payé ta dette. L'œuvre est accomplie. Viens à lui.
Il veut te libérer. Viens à lui.
Viens, mon ami. Viens à Jésus ce soir. Viens à lui. De la croix, la grâce coule. Son sang est puissant encore pour laver tous tes péchés et pour te délivrer ce soir.
Il veut te sauver. Viens à lui. Viens à Jésus.
Viens recevoir le pardon de tes péchés. Viens recevoir la vie éternelle.
Il
ne repousse pas son amour.
Te guérir. Viens à lui.
Viens, le Seigneur est là. Alléluia.
Viens.
Jésus. Dans son amour. Il ne te fait point de reproche. Il ne te fait point de reproche. Viens tel que tu es.
Il veut te sauver.
Il veut te serrer dans ses bras. Il a souffert pour ton péché. Alléluia. Alléluia. Encore.
Que je suis.
Gloire à toi, gloire à ton nom.
Merci.
dans le recueillement. L'Esprit du Seigneur est là, et il veut accomplir dans ta vie ce soir le plus grand des miracles, le miracle de la nouvelle naissance, de la régénération, du pardon de tous tes péchés. Mais tu dois prier de tout ton cœur. Ce soir, tu as compris que tu ne pouvais te sauver toi-même. Ce soir, tu as compris que ton péché mérite le jugement et la mort. Mais ce soir, tu as compris aussi que le sang de Jésus a coulé pour pardonner tes péchés et que seul son sang peut te laver ce soir. Et que tu décides à partir de ce soir d'abandonner ta vie au Maître. Le péché, c'est la rébellion. Jusqu'aujourd'hui, vous avez fait ce que vous avez voulu. Vous avez tourné le dos au Maître. Mais à partir d'aujourd'hui, vous tournez le dos à votre péché et vous dites, Seigneur Jésus, je me donne à toi, je veux me soumettre à toi et je t'accepte comme mon sauveur, comme mon berger. Et à partir d'aujourd'hui, je veux t'obéir tous les jours de ma vie. Seigneur Jésus, je me donne à toi 100%. Est-ce là votre prière ? Une vie nouvelle va commencer pour vous. Son sang va vous purifier par grâce. Mes amis, vous ne méritez pas le pardon. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il a, lui, payé votre dette. Et ce soir, il vous accorde ce pardon comme une grâce. Il te dit, mon enfant, je te pardonne si tu me demandes pardon. Si tu t'humilies, mon sang te lavera par grâce, comme un cadeau. Je te laverai et je viendrai habiter en toi. Et je te ferai de toi une nouvelle créature, un enfant de Dieu, sauvé pour l'éternité. Et désormais, tu marcheras avec moi, et tu marcheras fidèlement jusqu'au bout. Voulez-vous prier après moi, vous qui êtes devant, cette prière pour vous aider à faire cette rencontre avec Dieu, à vous repentir sincèrement et à devenir un enfant de Dieu? Vous n'acceptez pas une nouvelle religion. La religion ne sauve personne. Vous acceptez une nouvelle vie, et cette vie, c'est Jésus-Christ qui la donne, car Jésus-Christ est celui qui donne la vie.
Yeah.